Cécile Barra.
Avec la colonisation et le développement de notre société moderne, des petits peuples se sont retrouvés exclus de leurs terres ancestrales et remis en cause dans leur mode de vie totalement imbriqué avec la nature. Ce sont les peuples autochtones. Bonjour Yvon Lebeau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des mouvements indiens d'Amérique du Sud. Vous avez d'ailleurs publié La Grande Révolte Indienne chez Robert Laffont. Comment est-ce que vous définiriez, pour les auditeurs, cette révolte indienne, justement au sens large?
Écoutez, elle a plusieurs dimensions. Elle est d'abord extrêmement moderne. Cette révolte-là n'est pas la première, évidemment. Les Indiens se sont toujours rebellés contre les dominateurs, les dominants, depuis la conquête en Amérique latine. Mais
depuis Christophe Colomb en 1492.
Oui, mais ils prennent aujourd'hui des formes modernes de lutte qui combinent les aspects sociaux, les aspects culturels et les aspects politiques, et en particulier aussi la défense de l'environnement, dont on parlera, je pense, ici.
Alors, la particularité de ces mouvements indiens, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'ils ne sont pas forcément fédérés, c'est-à-dire que comme ce sont des peuples, des petits peuples, mais souvent ils se battent localement contre leur propre environnement.
Oui, il n'y a pas d'organisation verticale. Il y a des organisations locales, régionales, parfois nationales, et puis des correspondances entre elles. Mais en réalité, l'impulsion vient du bas et vient des différents groupes, et c'est en réseau qu'ils s'organisent quand ils s'organisent, et non pas en parti ou en grand mouvement très structuré.
Alors justement, pour illustrer la situation de ces minorités indiennes, je vous propose de partir au Venezuela. J'imagine que vous connaissez ce pays.
Un
petit peu. Dans la Sierra de Perilla, au Venezuela, à quelques kilomètres de la frontière colombienne, où les Indiens veulent récupérer la terre de leurs ancêtres occupée depuis plus de 50 ans par des éleveurs de bétail. Le dirigeant Yucpa du village indien de Chactapa porte ce combat. Les Yucpa ont demandé à Hugo Chavez d'indemniser les éleveurs pour qu'ils partent, mais malgré des promesses, la situation s'enlise dans la violence. Angèle Savino, la correspondante de RFI au Venezuela, s'est rendue dans le village de Chactapa pour mieux comprendre la situation.
Je m'appelle Sabino Romero Izarra. Je suis cacique de la communauté de Chactapa. Je lutte contre les propriétaires terriens depuis 1985. Tout le monde me connaît ici comme Sabino le combatif. Et je coupe les barbelés pour toutes les communautés, pas seulement pour moi. Les vieux caciques ont été tués par les éleveurs.
Comment as-tu récupéré Chactapa il y a un an?
En 2008, nous actuamos fuertemente con flechas y todo.
En 2008, nous nous sommes battus à coups de flèches pour récupérer trois fermes. Vous savez, les éleveurs ne travaillent pas. Ils obligent les autres à travailler comme des esclaves.
Sino que hacen trabajar como esclavos a los demás.
Qu'est-ce qui est arrivé à ton père?
Mon père, ils l'ont tué, mais c'était moi qu'ils cherchaient. J'étais à Maracaibo, la capitale de l'État de Zulia. Ils ont trouvé mon papa là, dans l'ancienne hacienda. Ils l'ont frappé contre le sol. Il a tenu trois semaines, puis il est mort des suites de ses blessures. Il était très vieux. Il avait plus de 100 ans.
Sabino Romero a rompu les barbelés pour récupérer la terre de ses ancêtres. Le propriétaire terrien Alejandro Vargas, qui l'avait déjà menacé de mort et brûlé son village, s'en est donc pris à son père le 7 juillet 2008, prétextant la perte de plusieurs de ses vaches. L'armée décide de fermer immédiatement l'accès au village et réprime les communautés Yucpa qui occupaient quatre fermes du Rio Yasa dans la Sierra de Perijá, à quelques heures de la frontière naturelle colombienne. Des étudiants écologistes décident d'aller rompre eux-mêmes l'encerclement militaire de Chactapa, emmenant médicaments et aliments de base. Mais les militaires les empêchent de passer et dispersent violemment la manifestation. Hugo Chavez réagit deux jours après lors de son programme télévisé à Lo Presidente. « Si je dois choisir entre les Yucpa et les éleveurs, je reste du côté des Indiens », lance-t-il le 24 août 2008.
Si Hugo Chavez de los Palotes.
Qui que ce soit possède une ferme là-bas, même un Hugo Chavez, eh bien non, camarade, cette terre est indienne.
Cette terre est indienne. Tierra para los indios.
Mon nom est Stuart Milan, je suis docteur en histoire à l'Université centrale du Venezuela. Cette rivière s'appelle en Lyupka Cunaquichina. Cela signifie qu'il y a toujours de l'eau. Les Yupka viennent de la famille des Caribes. C'est un peuple guerrier, semi-nomade, qui s'est toujours maintenu en pied de lutte au milieu de ces vallées et montagnes pour défendre leur espace. L'église a d'abord essayé d'enseigner la honte ethnique à travers les Capucins qui sont arrivés ici en 1945. La présence des créoles, et plus spécialement celle des éleveurs du XXe siècle, oblige les Yupka à s'installer dans les montagnes, ces lieux sacrés où vivaient les Atancha, leurs ancêtres. Ils ont occupé ces espaces pour sauver leur culture comme un mécanisme de défense.
À son arrivée au pouvoir, Hugo Chavez décide de donner une visibilité politique aux Indiens, confirmant ainsi l'inspiration indo-américaine de la Révolution. L'article 119 de la nouvelle Constitution indique que la démarcation des terres doit se faire dans les 2 ans suivant l'approbation du texte. Mais après la crise politique provoquée par le coup d'État manqué de 2002, le mouvement indien perd de ses forces. Une première fracture intervient entre les intérêts des indigènes et ceux de la Révolution, 2 mois avant les élections de 2006, lorsqu'Hugo Chavez refuse d'autoriser les démarcations de surface étendue et multiethniques. Cette stratégie a provoqué un repli des indigènes vers des assemblages monoethniques et régionalement parcellisés. Certaines communautés Yupa et Bari demandent l'autodémarcation de leur territoire, ce que l'État refuse sous prétexte de perdre le contrôle de la région stratégique de la Sierra de Perijá. Sergio Rodriguez, ministre de l'aménagement du territoire, ne dialogue qu'avec les porte-paroles de 5 espaces socioproductifs organisés autour des missions bolivariennes et il conteste ce qu'il appelle l'invasion de fermes.
Vous ne reconnaissez pas le cacique Sabino Romero Izarra.
Cet homme doit respecter l'ordre public et la loi. Nous devons réglementer les occupations de terres. C'est pour cela que la Constitution impose la reconnaissance de personnes tierces. Ce sont tous des gens qui ont des droits individuels sur un espace à démarquer.
Je
crois justement que certains Indiens refusent cette figure juridique du tiers.
La loi établit, et pour que puisse être otorgado un titre, que doit exister l'informe de terceros.
La loi établit qu'il doit exister un document pour les tiers, qui peut être l'État par exemple. Je ne peux pas éliminer la figure de parc national, ni un espace de sécurité frontalière. Il existe un ordre de régime spécial pour cette région. Je ne peux pas supprimer les propriétés privées comme cela, à moins de les acheter. Mais je dois alors faire une analyse légale de l'espace productif pour les Indiens. Si tu regardes une carte, 100% du territoire est composé d'indigènes. Il faudrait démarquer tout le pays et expulser toutes les personnes tierces. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Que l'on démarque tout le territoire pour 1 200 000 Indiens, alors que le Venezuela compte 26 millions d'habitants.
En refusant de reconnaître l'occupation d'Hacienda, M. Sergio Rodriguez se fait précisément l'écho de ces préjugés qui existent encore dans le gouvernement. Ah, on ne peut pas donner de fermes à ces sauvages ? Eh bien, il ne s'agit pas de leur donner des fermes, mais de leur rendre un espace d'où ils ont été violemment déplacés. On ne peut pas donner de propriété à un Indien à l'intérieur d'un parc national, mais à un fermier, si ? Eh bien, si tu regardes bien, nous sommes dans la zone du parc national, depuis que nous sommes entrés à Machique, la ville des propriétaires terriens. Avant d'être nommé vice-ministre de l'aménagement territorial, qui dépend du ministère de l'Environnement, Sergio Ramirez était le secrétaire exécutif de la Commission nationale de démarcation. Nous ne comprenons pas pourquoi il a obtenu ce poste, car jusqu'à aujourd'hui, la Commission de démarcation n'a distribué aucun des titres de propriété collective. Elle n'a offert que de petites parcelles. Les Indiens ont besoin d'un espace étendu et continu, sans la présence de tierces personnes, afin de développer leur activité collective.
Fatigués d'attendre la promesse d'Hugo Chavez de démarquer leurs terres, les Indiens en lutte de la Sierra de Perijá décident de se réunir avec les éleveurs. Les deux ennemis historiques trouvent un accord sans la médiation du gouvernement le 10 mars 2009. Les droits des tiers, qui peuvent être le propriétaire terrien, l'État ou le paysan, doivent être éliminés pour permettre l'autodémarcation. Mais afin d'éviter une recrudescence du conflit, l'État doit indemniser les fermiers. Armando Chacín, président de GADEMA, l'association des éleveurs de Machiques.
Ce n'est pas vrai que nous voulons être vos ennemis et je suis là pour vous le démontrer. Oui, bien sûr, il y a eu des affrontements, c'est clair. Cela va de soi, chacun se bat pour défendre ses intérêts. Nous ne sommes pas non plus d'accord pour vivre ici, dans cette zone démarquée. Cela doit être bien clair et je vais vous en donner les raisons. Notre activité ne le permet pas. Nous avons besoin de crédit, nous devons laisser un héritage aux nouvelles générations de producteurs agricoles. Comment voulez-vous que notre activité puisse survivre à l'intérieur d'un territoire indigène autodémarqué? C'est impossible, nous ne pouvons pas vivre ensemble.
Cette rencontre ayant eu peu d'écho à Caracas, les Indiens Yucpa et Barit descendent de leur montagne le 22 avril, jour international de la Terre, pour être entendus par Hugo Chavez en personne. Grande déception, ils ne sont reçus que par le ministre de la Présidence. Le 25 mai, Sergio Rodriguez annonce que la démarcation des terres attendue depuis 10 ans se fera avant le 12 octobre, date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, renommé jour de la résistance indigène par Hugo Chavez. Mais ce projet ne concernera pas les Indiens rebelles, car le ministre Sergio Rodriguez prétend qu'ils enlèvent des éleveurs et des fermiers. Le leader paysan Braulio Alvarez, qui a été victime de plusieurs attaques de sicaires engagées par des propriétaires terriens, a été élu député à l'Assemblée nationale pour défendre les droits des petits producteurs. L'État doit racheter les terres des Yucpa si Hugo Chavez mène une véritable révolution, explique cet homme humble qui s'est rendu à Chactapa pour écouter les revendications de Sabino Romero.
Tengo 1000 vacas de ordeño.
Imaginez que je sois un éleveur, j'ai 1000 vaches à traire, je peux vendre 3000 pièces de bétail et des litres de lait sur le marché. Et face à moi, j'ai une population indigène qui meurt de faim, réfugiée dans les montagnes. Ils vivent là où la faune et la flore devraient être préservées.
Si l'État accepte de racheter les terres aux propriétaires terriens,
cela permettra aux Indiens d'étendre leur présence sur les terres planes et fertiles pour produire des haricots noirs, du maïs ou élever leurs poules. Pourquoi un Yucpa, un Bari, un Guarijo ne pourraient-ils pas élever du bétail? Ici, il faut empêcher tout exercice de la force militaire. Il faut chercher des possibilités de développement économique qui protègent la nature.
Les Yucpa disent que les déplacés colombiens sont obligés de tenir le rôle de sicaires.
Il y a eu une proposition d'accord de paix en Colombie il y a environ 5 ans, mais ni l'État colombien, ni l'Organisation des États américains ou les associations humanitaires n'ont réussi à développer des projets de production locale avec les déplacés de guerre. Ce sont plus de 30 000 hommes et femmes déplacés qui ont été abandonnés à leur sort. Ce sont des personnes qui ont perdu l'esprit de l'amour. Ils sont habitués à la vie de nomade. Ils rencontrent ainsi facilement la mafia et deviennent des gangsters. Comme ils ne trouvent pas de travail, ils commencent à enlever les gens et ils s'en prennent même parfois à ceux qui les avaient engagés comme sicaires.
Les sicaires veulent nous tuer, nous les Indiens. Les Guatias, les non-Indiens nous menacent. Mais maintenant, nous ne voulons plus de ça, parce que le président a dit aux éleveurs de s'en aller. Je ne sais pas où ils vont amener leurs animaux. Des ganaderos manipulent les Yucpa avec leur argent, mais nous non. Nous continuerons à lutter pour la terre de nos ancêtres.
Je ne veux pas que l'on exploite le charbon ni le phosphate. J'ai vu qu'autour des mines du Guasare, dans le nord, les Indiens Wayuu s'intoxiquent et meurent à cause des poussières de charbon portées par le vent. Les plantes médicinales doivent survivre. Nous ne voulons pas que nos rivières s'assèchent comme le Rio Guasare.
Les richesses minérales de la Sierra de Perijá sont la toile de fond du conflit. Malgré le décret présidentiel qui a suspendu les concessions remises aux transnationales minières, les militants écologistes considèrent que seul un acte dérogatoire assurera la non-exploitation future des terres indiennes. Luzbi Portillo, président de l'association Homo et Natura, se bat depuis 20 ans pour la protection d'un des derniers poumons verts du Venezuela. Il est considéré aujourd'hui par les chavistes sectaires comme un ennemi de la révolution qui utiliserait la lutte pour les Indiens à des fins séparatistes. Lorsqu'il abandonne ses pamphlets contre la bureaucratie des ministères, Luzbi Portillo monte dans la Sierra de Perijá avec l'espoir de la voir renaître.
Les prairies sont en train de se transformer en nourriture. Les Indiens ont planté 9000 pieds de manioc. Ils ont semé 5000 graines d'ananas, de l'ail, du topocho. Vous voyez, ces montagnes pelées, il ne reste plus rien. C'est le résultat de 50 ans d'exploitation du bois. Depuis que les Indiens de Chactapa ont récupéré leurs terres, les cigales sont revenus. Ils ont vu des cerfs, des grands singes. Ils sont heureux car les animaux sauvages peuplent à nouveau la jungle, le piémont de la Sierra. Bientôt, ces déserts verts vont se transformer en nourriture, en agriculture.
Le 12 octobre dernier, des parcelles de terre montagneuses ont été remises à trois secteurs de la Sierra de Pelija. Mais la commission de démarcation n'a pas réussi à convaincre une centaine de villages, dont celui de Sabino Romero. Ils exigent que la démarcation respecte les critères de terre assainie, sans propriétaire terrien ni concession minière. Le lendemain, une violente dispute éclate entre deux communautés voisines à propos d'un supposé vol de bétail dont Sabino Romero est accusé. Le cacique de Chactapa et sa fille sont blessés, semble-t-il, en fuyant les coups de feu. Son gendre est tué, ainsi qu'une femme enceinte. Sabino Romero va finalement être retenu plusieurs jours à l'hôpital militaire sans pouvoir communiquer avec sa famille. Un ordre d'arrêt contre le leader indigène aurait été émis, mais sans avoir été transmis à ses avocats qui dénoncent sa détention arbitraire. Ce n'est pas une simple querelle entre Indiens, s'exclament les mouvements de soutien à Sabino, qui demande à Hugo Chavez l'arrêt immédiat de la criminalisation du cacique par certains fonctionnaires et le paiement des indemnités aux éleveurs.
Yvon Lebeau, on vient de l'entendre dans ce reportage, la situation est extrêmement conflictuelle au Venezuela. D'ailleurs, vous me disiez pendant qu'on écoutait le reportage, Ludby Portillo, là qu'on entendait dans le reportage, l'universitaire a été incarcéré hier. Est-ce que cette situation est emblématique de la situation des populations indiennes en Amérique du Sud en général? Parce que, en fait, c'est la question du droit à la terre.
Oui, le reportage est excellent parce qu'il souligne de manière très précise un phénomène qui monte un peu partout en Amérique latine et ailleurs aussi, mais en Amérique latine spécialement, et où s'affrontent les Indiens, les communautés indiennes, avec des éleveurs et aussi les entreprises, des multinationales. Ici, vous avez en particulier les éleveurs et des transnationales qui s'intéressent à l'exploitation de mines de charbon.
En général, et sous la terre des Yucpa.
Oui, et des voyous qui sont un peu plus au nord. Et vous avez ce genre de scénario se répète à travers toute l'Amérique latine. Vous avez eu en juin des conflits extrêmement violents qui ont fait une trentaine de morts en Amazonie péruvienne. C'était autour de l'exploitation des hydrocarbures, pétrole, gaz. Ailleurs, c'est autour de barrages hydroélectriques. C'est aussi le cas en Amérique du Nord, en Canada, etc. Ou de l'exploitation touristique, ou de l'exploitation des terres en général. Vous avez le cas de Benetton au sud des grandes territoires accaparés par Benetton au sud de l'Argentine et où des Indiens Mapuches sont également en conflit avec Benetton.
C'est vrai qu'il y a par exemple là les Jeux Olympiques d'hiver qui démarrent au Canada dans 5 mois et les Inuits se manifestent en disant une partie a lieu sur nos terres, on n'est pas d'accord.
Voilà, alors il n'y a pas là non plus une organisation continentale, mais partout il y a ce phénomène parce que les Indiens ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont très au courant de leurs droits. Leurs droits sont parfois reconnus dans la Constitution, comme c'est le cas au Venezuela.
Oui, l'article 119 de la Constitution dit que la terre appartient aux Indiens.
Voilà. Et il y a évidemment une réserve sur une restriction sur le sous-sol. Mais il y a aussi cette fameuse charte 169 de l'OIT qui a été ratifiée d'ailleurs par la plupart des États latino-américains, pas par la France, qui a aussi des Indiens en Guyane et donc en Amérique latine, mais par les plupart des États latino-américains, cette charte a été ratifiée et les Indiens maintenant s'en réclament parce que cette charte établit toute une liste de droits et en particulier aussi le droit de donner son avis sur l'exploitation du sous-sol, pas seulement des territoires mais du sous-sol.
Et cette charte donne vraiment des droits au peuple?
Oui, et elle est contraignante, contrairement à une autre déclaration des droits des peuples autochtones qui a été signée il y a 2 ans aux Nations Unies et que la France l'a signée, mais celle-là n'est pas contraignante. La Convention 169 est contraignante. Donc,
c'est-à-dire, par exemple, que pourraient faire les Indiens du Venezuela s'ils utilisaient vraiment cette Convention 169
Pour le moment, c'est plutôt une charte dont ils se réclament, pas seulement celle du Venezuela, mais de tout le continent, et d'ailleurs, mais ils pourraient en appeler aux instances internationales. Et ils en appellent pour le moment, en tout cas, à l'opinion internationale qui les soutient. Il y a très souvent des conflits qui sont locaux, mais qui ont des appuis dans des organisations, des ONG.
On pense à Survival, par exemple, qui se mobilise beaucoup sur ces questions-là.
Voilà, qui est une organisation, Survival International, qui est une organisation internationale avec des antennes dans différents pays. Il y a eu des concerts, ça remonte d'ailleurs assez loin, puisque déjà dans les années 80, Sting avait fait une tournée mondiale avec un Indien Kayapo, un Indien brésilien Kayapo. Et il y a ce genre de manifestation, une certaine mobilisation internationale, un appui international. Donc, ces Indiens, loin d'être enfermés dans leur petit groupe, leur voix porte bien au-delà. C'est ce qui embête un peu les États, parce que vous prenez le cas du Venezuela, vous pouvez prendre tous les autres cas d'Amérique latine, la plupart sont quand même réticents et envoient plus souvent l'armée qui protège plutôt les éleveurs.
Parce que le problème, oui, c'est ce qu'on disait, le problème, c'est que ces peuples, en fait, eux ont un lien très très fort avec leur terre, qui est la terre de leurs ancêtres. Ils ne peuvent vivre que là, et c'est souvent là où il y a conflit. C'est que eux veulent préserver cette terre et cette nature avec laquelle ils sont profondément imbriqués. Et ça, c'est conflictuel, évidemment, avec l'exploitation des richesses qui sont dans les sous-sols.
Oui, la terre, pour eux, ce n'est pas seulement un moyen de production, c'est un territoire, c'est une partie de leur identité, et c'est aussi souvent, et c'est pour ça qu'ils demandent une terre continue, qu'il n'y ait pas des terres qui ne soient pas hachées en petits morceaux, parce que c'est aussi, ce sont des territoires de chasse, de collecte, de pêche, etc. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le cas. Et évidemment, l'élevage ou l'exploitation des mines, les orpailleurs en Amazonie, font que ces terres sont morcelées et envahies et qu'eux-mêmes ne peuvent pas l'exploiter. Ils ne sont pas contre le développement. Ils veulent un développement maîtrisé et dans lequel ils soient partie prenante. Ils ont leur mot à dire. Alors, je voudrais dire qu'il y a la question des mines, la question du pétrole, il y a la question... c'est surtout l'élevage qui est un désastre pour l'environnement et pour les Indiens. C'est pour ça qu'il y a très souvent ce genre de conflit avec les éleveurs.
Comme on l'a entendu là au Venezuela. Alors, c'est vrai que la préservation de ces peuples et de leur mode de vie a une nouvelle résonance aujourd'hui quand on voit l'état de la planète. Après les avoir maîtrisés pendant des années, on se dit peut-être qu'on a des choses à apprendre.
Tout à fait. Il y a un autre rapport entre la nature et la culture qui est sans doute plus maîtrisé, plus harmonieux, plus respectueux de la nature, même si pas tous les groupes indiens il faut pas non plus idéaliser, il faut pas en faire les bons sauvages, etc. Mais ce n'est pas non plus, en général, ils ne revendiquent pas exactement le retour en arrière à des traditions, sinon la maîtrise du développement actuel. Donc il s'agit de revendications tout à fait mesurées, tout à fait acceptables, raisonnables, si l'on veut bien penser en termes de préservation, de défense de la nature. Autrement dit, on peut fort bien combiner la défense de l'environnement et la défense de la diversité culturelle. C'est ce que ce mouvement, parce que c'est un mouvement, même s'il n'a pas une organisation supranationale, il a des instances, il est représenté dans des instances...
Même à l'ONU.
Même à l'ONU, il y a des instances de représentation des peuples autochtones. C'est pour ça que ce mouvement a un écho extraordinaire aujourd'hui, parce parce que ces questions-là, autant la défense de la biodiversité que la défense de la diversité culturelle sont sur le devant de la scène.
Et même au quotidien, leur mode d'exploitation de la nature, enfin là on parle très généralement, hein, je veux dire, c'est évident que chaque peuple a sa façon de vivre et d'exploiter son espace, mais il y a un respect puisque la nature est presque personnifiée comme un être à part entière à respecter.
Tout à fait. Nous sommes, l'Occident, le fruit d'une révolution qui est à la fois industrielle, philosophique, etc. Où nous devons devenir les maîtres de la nature. Mais nous en sommes devenus les destructeurs en devenant les maîtres. Mais le rapport à la nature pourrait être autre, il pourrait être d'échange avec le cosmos. Et il y a une représentation du cosmos, effectivement, dans les peuples indiens, où l'homme fait partie de ce cosmos, et que détruire le cosmos, c'est se détruire soi-même.
Donc beaucoup de leçons à retirer de ces peuples autochtones. Merci beaucoup Yvon Lebeau d'être venu dans Ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, La Grande Révolte Indienne, c'est publié chez Robert Laffont. Lundi, C'est pas du vent recevra le médecin Patrice Halimi pour réagir à l'actualité du jour. Nous parlerons donc santé et environnement. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous irons en Irak où la gestion de l'eau est un problème crucial. À lundi donc, même planète, même heure.